بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مي شفان إسلام Nous remercions Allah Rabbul Izzah qui nous donne la possibilité de nous réunir après la salat de l'Isha pour étudier quelques points en rapport avec les croyances, les aqidas du mu'min, du musulman. Et des points d'une importance capitale parce que l'étude des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal nous donne une clairvoyance dans la compréhension de la religion. La connaissance des noms d'Allah Azza wa Jal et de ses attributs nous permet de mieux comprendre notre vie, l'objectif de notre création et le rapport entre ce monde et l'au-delà. Et donc le nom d'Allah qu'on a commencé à étudier et qu'on va compléter et qu'on avait complété la dernière fois, c'est Al-Latif. Et pour rappel, Al-Latif, à travers l'étude du terme Al-Latif, on comprend qu'Allah Azza wa Jal est clément, Allah est sage. Allah sait ce qu'il y a de mieux pour l'être humain et Allah prédestine pour l'homme. Allah accorde à l'être humain ce qui est le plus adapté pour lui. Et on avait conclu sur ces points la dernière fois que notre Rabb, sachant qu'il connaît, il a ihata, une connaissance parfaite de chaque individu, il va agir avec chaque personne en fonction de la personnalité du croyant, en fonction de ses besoins, en fonction de ce qui lui est le plus approprié. Et donc, en conclusion, on avait dit que pour certaines personnes, voyons qu'Allah Azza wa Jal va les éprouver par des situations de péché, afin de leur donner la possibilité de refuser le haram, et le fait que la personne va s'éloigner du péché, du haram, il se rapprochera d'Allah Azza wa Jal. On avait cité l'exemple de cette personne qui sera sous l'ombre du trône d'Allah le jour de Qiyama parce qu'il aura refusé les avances d'une femme d'une grande beauté et d'une haute lignée et il refuse ces avances uniquement par amour et par crainte d'Allah Azza wa Jal. Et pour d'autres personnes, et ça on avait vu dans les études de cas, dans le sifat de la qualité Al-Latif, pour d'autres personnes, Allah Azza wa Jal va tout simplement éloigner de ces gens, Allah Rabbul Izza va éloigner tous les asbab des ma'ansi, tout ce qui peut amener l'homme, tout ce qui peut amener ce serviteur, pas l'homme, tout ce qui peut amener ce serviteur à accomplir des péchés, Allah Azza wa Jal l'en éloignera. Allah te protégera d'un travail, par exemple, d'un emploi où il y a des risques de péché. Allah te protégera d'une subsistance, d'un risque, d'un rythme de vie, ou alors d'un pouvoir d'achat qui peut te faire sombrer dans certains péchés. Donc pour certaines personnes, Allah enlève tout ce qui peut les faire glisser vers le péché. Et pour d'autres, Allah éprouve par une ouverture face au péché et que la personne va dire non par crainte d'Allah et il aura un grade élevé. Deux qadha, deux destins différents, mais qui dépendent des personnes et Allah. Et Al-Latif, Allah il est Al-Alim, Allah est Al-Hakim et Al-Rahim. Ce sont ces quatre attributs que nous devons comprendre pour bien intégrer le terme Al-Latif, comment est-ce qu'Allah agit avec bonté avec chacun de ses serviteurs. Également, on avait vu, là on récapitule un petit peu, on fait des comparaisons entre les différents exemples qu'on avait cités, et là on revient un peu sur la richesse. Pour certaines personnes, on parle de la santé cette fois-ci, pour certaines personnes, ben Allah Azza wa Jal agit d'une telle façon avec eux, avec une telle bonté, une telle bienveillance, qu'Allah leur accorde la santé. Et c'est là un bienfait de la part d'Allah. Allah était bienveillant avec toi en t'accordant la santé. Et pour d'autres personnes, Abdurrahman, Allah va les éprouver par la maladie. Et lorsqu'Allah envoie la maladie, c'est une manifestation de son lutf, de sa bienveillance envers cette personne. Allah crée une situation d'ibtila, une situation d'épreuve pour que ce serviteur se rapproche de lui. Et pour la personne, Allah lui accorde la santé et par cette santé, la personne pourra faire de bonnes actions. C'est un ni'ma pour lui. Troisième exemple et dernier, dans les comparaisons, pour certaines personnes, Allah Azza wa Jal ouvre les portes du rizq, de la subsistance, des moyens financiers. Et c'est là une clémence d'Allah, une manifestation de la bienveillance d'Allah envers ce serviteur. Et pour d'autres, Allah Azza wa Jal éprouve par la pauvreté. Et le fait qu'Allah ne donne à cette personne et ne donne pas à cette personne, les deux cas de figure, cela découle de la clémence d'Allah, de la sagesse d'Allah et de sa bienveillance envers ses serviteurs. Mais deux façons d'agir avec deux serviteurs différents. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais s'il y a plusieurs façons d'agir, comment est-ce qu'on décrypte tout ça? Tu décryptes tout ça en intégrant le fait que toutes les décisions viennent d'Allah et qu'Allah ne prend jamais une décision qui te sera néfaste ou nuisible. Et qu'Allah, lorsqu'il prend une décision, c'est qu'il te connaît. Alimun bidhati as-sudur. Allah sait ce qu'il y a dans les poitrines. Allah il connaît l'historique de chaque individu. Et Allah Azza wa Jal est hakim. Il est sage de ses décisions. Allah est clément et miséricordieux dans tout ce qu'il décide. Donc de cette façon, tu vas pouvoir accepter toutes les décisions d'Allah Azza wa Jal et accepter toutes les situations de la vie. Voilà donc avec ces trois ou quatre exemples comparatifs, on peut avoir une certaine idée, on peut résumer un peu comment est-ce que le mu'min comprend la bienveillance d'Allah envers lui. Maintenant, en trois ou quatre points, qu'est-ce que cela nous apporte spirituellement? Donc là, on va énumérer les apports spirituels pour un musulman, du fait de connaître qu'Allah est latif. Comme on avait fait pour Allah et Rahman et Rahim, on a vu qu'est-ce que cela nous apporte spirituellement. Et donc, on va voir le mu'min qui a intégré cette qualité d'Allah qui est bienveillant envers ses serviteurs, qu'est-ce que cela va lui apporter? Premièrement, ça lui permettra de comprendre les quatre sifat. Comme on a dit, on a résumé qu'Allah est clément, qu'Allah connaît tout, alim, Allah est qadir, Allah est capable de tout, ala kulli shay'in qadir, et qu'Allah est hakim, Allah est sage dans ses décisions. Et avec ces qualités d'Allah Azza wa Jal, si tu les intègres bien, mashallah, tu peux avancer dans la vie et vivre toutes les situations. Lorsqu'on a donc comparé les différentes situations de la vie, ça nous ramène vers un hadith dans lequel le prophète alayhi salat wa sallam dit ajaban, étonnant la situation du croyant, in asabathu dharra sabara fa kana khayran lah. Lorsque le croyant est éprouvé par Allah, éprouvé c'est-à-dire par une difficulté, il fait preuve de patience, fa kana khayran lah, il y a un bien pour lui. Et lorsqu'Allah lui accorde un bienfait, fa shakara, il fait preuve de shukr, reconnaissance, fa kana khayran lah, il y a un bien pour lui. Allah agit de façon différente avec le serviteur et dans les deux cas, le plus important c'est qu'il parvienne à se retourner vers Allah Azza wa Jal, à s'en remettre à Allah. Le mu'min n'est pas celui qui se replie sur lui-même. Le mu'min n'est pas celui qui va trouver de l'aide auprès des gens. Le mu'min, c'est celui qui dans toutes les situations de sa vie, sarra ou darra, situation de bonheur ou, je ne dis pas de malheur, mais de difficulté, il lève les mains et son cœur s'oriente vers Al-Khaliq, le Créateur, en intégrant le fait que tout vient d'Allah Azza wa Jal. Mais ça ne doit pas se limiter à des discours. C'est-à-dire que ça découle d'une connaissance assez précise sur les qualités d'Allah. Et plus tu vas approfondir ta connaissance sur Rahman, Rahim, Hakim, Latif, Subhanallah, cette réalité pénètre le cœur et te donne les qualités spirituelles pour vivre. Parce que la vie n'est pas facile. Plus on avance, plus on s'approche des grands signes de Qiyama, le mu'min sera de plus en plus éprouvé. Il n'y a pas besoin de faire un dessin sur ce qui se dessine. D'accord? Déjà, on a vu dans... d'accord? Je pense que on a tous les mêmes préoccupations. Et Wallah Musta'an, ça annonce des joies très difficiles. Ça annonce des joies extrêmement, extrêmement difficiles où le mu'min risque d'être vraiment éprouvé dans sa foi. Mais là, nous devons vraiment trouver les ressources spirituelles en retournant vers Allah Azza wa Jal. Deuxième faïda, deuxième avantage spirituel du fait de connaître qu'Allah est latif, le mu'min va demander dua, sachant qu'il a intégré que tout vient d'Allah, ben il va demander à la source. Il va demander à Allah Azza wa Jal, « Oh Allah, fais preuve de clémence avec moi, de bienveillance. Ya Allah, dans ma subsistance, dans ma santé, dans ma famille, sois latif avec moi. Fais preuve de lutf, de rahma avec moi, Ya Allah. » Il sait que ça vient d'Allah. Le fait de l'avoir intégré, ça donne une puissance dans tes doigts. Parce que maintenant, si tu demandes, Ya Allah, je demande telle, telle chose, mais dans ton cœur, tu vois, je donne un exemple très clair. Oh Allah, accorde-moi la bénédiction de mes biens, que j'arrive à terminer le mois, que je n'ai pas de dette et tout. Mais dans ton cœur, ta conviction, c'est que ton salaire t'apporte l'argent. Tu es convaincu que c'est toi qui gagne et que c'est toi qui gère. Ben, ce doua, c'est un doua, mashallah. Mais il n'y a pas une forte conviction à travers le doua. Parce que tu n'as pas mis ta confiance en Allah qui est Ar-Razzaq, celui qui donne la subsistance. D'accord? Alors que, là on revient pour notre exemple, si on a réellement intégré tout ce qu'on a dit, ben lorsqu'on va demander à Allah Azza wa Jal, idéalement, le doua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi notre kiff du mois de novembre? Alors c'est quoi notre kiff du mois de novembre? Dis. Non, dis le doua en arabe, comme un grand garçon. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ce magnifique hadith, ce magnifique doua, enseignement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné, doua que le prophète a demandé, ça c'est des doua jami', c'est des doua qui sont complets. Et franchement, quand on a bismillah, on a eu l'occasion d'étudier le sens du doua, on tombe littéralement amoureux du doua. Il y a tout ce dont tu as besoin, il y a de ce doua. Et on peut le mémoriser facilement. Il faudrait le lire à longueur de journée. Allahumma inni wa inna as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Il y a tout dedans. Al-huda, la guider. Ziyadatul iman wal-yaqin wat-tawakkul wal-istiqama wal-ikhlas. Tout ce qui peut t'apporter, tout ce qui peut enrichir ta relation avec Allah Azza wa Jal. Ça fait partie de al-huda. Et al-huda, il y a également le ilm. On avait expliqué, quand on parle de huda, il y a le ilm, la connaissance également. La connaissance plus le tawfiq et l'amal. Ça, c'est le sens le plus complet, le plus détaillé par les savants. Wa tuqa, la piété. Wa l'afaf, la protection contre les péchés. Wa l'rina, rina nafs, que tu n'aies besoin de personne à part Allah. Subhanallah. Celui qui a eu ce doua, il aussi, subhanallah, il devient l'homme le plus libre au monde. L'homme le plus libre au monde et l'homme le plus heureux au monde. Donc, si tu sais que tout vient d'Allah et que rien ne vient des créatures, si tu as forgé cette conviction, pas uniquement en parlant, en répétant. La conviction ne se forge pas en répétant. La conviction se forge sur des bases solides. Tu comprends les sifat, les qualités, les noms d'Allah. Tu développes une conviction sur les noms d'Allah Azza wa Jal. Mais maintenant, tu vas demander à Allah de t'accorder le meilleur de ce qu'il accorde à ses pieux serviteurs. Et donc, quand on demande ce doua avec cette conviction, subhanallah, ce doua monte de puissance. Troisième apport spirituel du fait de connaître qu'Allah est latif, ar-ridha bil qada'i wal qadr. Être satisfait du destin. Vous avez remarqué que quand on parle de latif, on parle des situations de la vie. On parle des situations de la vie. Santé, maladie, subsistance, situation familiale, et ainsi de suite. Tous les événements qui enrichissent ou qui appauvrissent d'une certaine façon notre vie. Tous les événements heureux ou malheureux, ou les épreuves. Mais donc, tout ça, c'est en rapport avec ce qui est prédestiné. Donc, le fait d'intégrer la qualité d'Allah, al-Latif, ça te renforce ta foi sur le destin. Parce que jamais tu ne vas être désespéré. Jamais tu ne vas ressentir un sentiment d'injustice. Jamais tu vas te dire qu'Allah m'a abandonné. Ça, c'est quand la foi a trouvé sa place dans le cœur et une foi sur les bases solides. Et à la fois, je crois en Allah, mais si je demande qui est Allah, Allah, c'est tout. Allah, un, wahid, unique. Et qui me donne la vie, qui me donne la mort. C'est suffisant comme connaissance pour attester la ilaha illallah. Mais ce n'est pas suffisant pour connaître ton Seigneur. Ce n'est pas suffisant, pour renforcer ta foi. Autant tu vas connaître les noms et les qualités d'Allah, subhanallah, cela te sera profitable pour les 6 branches de la foi. Les savants disent que celui qui a complété, celui qui a atteint le summum dans le iman bil qada wal qadr, il a atteint le summum de la foi. Parce que c'est la branche de la foi la plus difficile à développer, pas comprendre. On ne te demande pas de comprendre. On ne demande pas de comprendre le destin. Parce que cela émane du ilm d'Allah qui est infini, qui dépasse l'entendement humain. On nous demande d'y croire, d'avoir la conviction et de se soumettre aux décisions d'Allah et de s'en remettre à Allah dans tout ce qu'il nous a prédestiné. Quand c'est quelque chose qui est pour nous, nashkurullah, nous remercions Allah et nous nous montrons reconnaissants. Allah t'accorde quelque chose, tu vas faire un péché après, ça c'est être ingrat. D'accord? Et lorsque c'est des décisions qui sont lourdes, ben on fait preuve de patience et on s'en remet à Allah Azza wa Jalla. Également, si on pouvait rajouter par déduction, celui qui a développé la foi, donc, par ses sifat, il a développé la foi, il a complété la foi sur le destin, ben il y a des maladies spirituelles qui n'habiteront jamais son cœur. Qui me donne 3 exemples de maladies spirituelles qui habite principalement le cœur de celui qui n'a pas la foi sur le destin et qui ne touchera ni n'effleurera le cœur de celui qui a vraiment iman bil qada et wal qadr. Nabil, premièrement,
la peur de la pauvreté.
Eh oui, quoi d'autre? Non, maladie spirituelle en rapport avec conséquence d'un manquement sur la foi fil bil qada et wal qadr. Peur de la pauvreté. Plus ou moins. Al-hasad, la jalousie. Quand est-ce que tu es jaloux? Un exemple, hein. C'est une invitation dimanche. Quelqu'un de la famille débarque avec une Porsche 4x4, mais mashallah, ma yahtaj. Des roues plus grosses que les miennes encore. Dis, waouh, comment ça? Immédiatement, dans ton cœur, il y a quelque chose qui. Tu dis, ah, une Porsche noire, 4x4, 4 roues motrices, des roues, c'est même pas des 20 pouces, c'était des, je sais pas des combien. Bref. Puis tu te dis que, khalas, ça c'est son risque. Mon risque, son risque. Khalas. Et c'est Allah qui prédestine. Alors que si tu ne t'accroches pas à ça, ben, la hasad s'installe dans le cœur à partir du moment où tu penses que il l'a gagné à la sueur de son front, où il a eu une concours de circonstances, oublie les asbab. Retiens qu'on n'a que ce qu'Allah nous a prédestiné. Si tu as un problème, adresse-toi à Allah. Personne ne le fera. Est-ce qu'on penserait une seconde qu'Allah était, na'oudou billah, injuste, lui a donné, lui, une Rolls Royce, et l'autre a tel truc, ou lui, il a un château, lui n'a pas de domicile. Jamais on oserait penser qu'Allah était injuste. Tout vient de la sagesse d'Allah Azza wa Jal. Quel autre péché n'habitera jamais le cœur de celui qui a parachevé ou alors qui a bien avancé dans la foi sur le destin? L'avarice. Bukhl. D'accord? Ash-shuh. Quelqu'un qui ne donne pas, c'est quelqu'un qui pense que j'ai mérité, lui n'a pas mérité. Tu n'as pas mérité et lui n'a pas démérité en fait. Ce que tu as eu là, tu n'as pas mérité toi. Et ce que lui, le fait, ce qu'il n'a pas dans sa main, il n'a pas démérité non plus. Tout cela vient d'Allah Azza wa Jalla. Allah donne à qui il veut. Et quand Allah donne à quelqu'un, Allah l'éprouve par la richesse. Et quand Allah ne donne pas à une personne, Allah l'éprouve par la pauvreté. Et Allah attend une réaction de chacun des deux. Et pour les deux, Allah fait preuve de lutf, de bienveillance envers le pauvre. Parce que cette pauvreté-là, il en remerciera Allah le jour de Qiyam. Parce que le pauvre entre au paradis, selon certaines versions, comme ça n'a 500 années avant les riches. Même, on parle du riche qui a, mashallah, bien œuvré. Pas le riche qui a dépensé son argent à Ibiza, à Monaco, à, je sais pas, aux îles Caïmans, autre chose. Non, c'est vraiment quelqu'un qui a donné dans le chemin d'Allah. D'accord? Et la personne qui est aisée, qui a les moyens, ben, cette richesse est une épreuve. Et Allah voit est-ce qu'il agit, est-ce qu'il dépense correctement, est-ce qu'il donne, est-ce qu'il sait que ça vient d'Allah, est-ce qu'il l'utilise à bon escient ou non. Hada. Autre maladie qui n'habitera pas le cœur de celui qui a compris qu'Allah est latif et qui a donc compris le destin, l'avidité. Toujours vouloir plus. Allah t'a accordé telle chose, tu veux encore. Ben celui qui a développé les qualités qu'on a citées, ben il va faire preuve bien au contraire de qana'a, de satisfaction. Si tu vis bien, alhamdulillah, tu remercies Allah. Si tu vis dans une situation un peu difficile, tu essaies d'avoir un peu plus, tu fais des efforts et tout, d'accord? Mais malgré ça, si tu vois que ça n'avance pas,
Sache que c'est ce qu'Allah t'a prédestiné et il n'y aura rien de plus pour toi. Et tu acceptes. Vous vous rappelez du hadith dans lequel le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam nous avait rappelé que pour certaines personnes, Allah a prédestiné la pauvreté. Et Allah sait, Alim, Allah sait, il connaît ton fond. Allah, il sait que pour cette personne, rien n'est plus adapté que cette situation-là. Et que si ça aurait été une autre situation, par exemple la richesse, cette personne serait allée dans des péchés qu'on n'imagine pas. Donc Allah est gentil avec toi. Lorsque il te limite dans tes biens. Et voilà donc quelques points en rapport avec la compréhension de cette qualité. On pourrait voir également, ça c'est un point un peu technique, les ulama aqidah, ils appellent ça at-takhalluqu bi akhlaqillah. C'est-à-dire que quand on voit comment Allah agit envers ses serviteurs, nous devons nous aussi agir de cette façon avec nos proches, nos semblables. Quand on voit qu'Allah est clément, miséricordieux, et qu'Allah azzawajal ne veut que le bien pour son serviteur, nous devons essayer de développer ces qualités, bien sûr, à une échelle humaine. À une échelle humaine, nous devons essayer d'agir avec nos proches, avec notre prochain, avec clémence, avec miséricorde, en recherchant le bien pour lui. Ne prends jamais une décision qui le causera du tort. Cherche toujours le bien pour ton frère. Souhaite le bien pour ton frère. Ça, c'est une qualité qu'on doit développer lorsqu'on a réalisé qu'Allah agit comme ça avec nous. Donc nous aussi, nous devons agir de cette façon avec les gens. Autre exemple concernant cette règle, quand on verra que Allah est pardonneur. Allah pardonne, quelle déduction on doit faire? Donc nous aussi, dans nos relations avec nos frères et sœurs, nous devons apprendre à pardonner. Si Allah Rabbul Izzah est capable de pardonner tes péchés tellement nombreux qu'ils peuvent atteindre le seuil ou la limite du ciel, d'accord? Allah est capable de les pardonner tous, nous aussi, nous devons pardonner les manquements de nos proches. Et cinquième point, je ne dis pas le dernier, mais cinquième point qu'on a retenu, celui qui a développé cette qualité, vraiment, il va développer al-yaqin wa al-tawakkul. Deux qualités qu'on a plus ou moins essayé d'expliquer dans Riyad al-Salihin en introduction hier, deux manzilas, deux degrés extrêmement importants. Le degré de conviction et de conviction en tout ce qu'Allah a décrété et en tout ce qu'Allah a prédestiné et tout ce qu'Allah a légiféré aussi. Avoir la conviction que c'est ça, c'est là-dedans, il y a un bien pour nous. Et at-tawakkul qui est le résultat, donc une confiance totale en Allah Azza wa Jal. Celui qui a développé, qui a appris ces qualités d'Allah, assurément il pourra développer ces qualités. Et en conclusion, je permets-moi de vous rappeler ce qu'on avait dit en introduction, l'histoire de Urwa ibn Zubayr, radiallahu anhu, qui, vous vous rappelez l'histoire, lors d'un voyage, il lui est arrivé un accident, et il a eu une jambe sectionnée. Et en même temps, il apprend la triste nouvelle, qu'un de ses fils est décédé. Ça fait beaucoup, Deux épreuves, tu perds un membre carrément, et tu perds quelqu'un de ta famille. Et donc, vous voyez la réaction de foi, réaction de iman, réaction de ces personnes qui avaient atteint pratiquement le summum de la foi, c'est-à-dire des exemples vivants pour nous. D'accord? Et nous sommes comme des fourmis, nous circulons au niveau de ces orteils, on touche ces orteils avec nos antennes, on aimerait atteindre ces sommets, mais voilà les sommets, voilà qu'est-ce que ça donne. Il dit cette parole, il s'est adressé à Allah Azza wa Jalla, dit, oh Allah, tu m'as accordé 7 fils, kana li banun sab'a, fa akhadhta minhum wahida, wa abqayta li 6. Oh Allah, tu m'en as repris 1. Mais tu m'en as laissé 6. Wa kana li atraf, tu m'as accordé 4 membres. Fa akhadhta tarafa. Wa abqayta thalatha, tu as repris 1 membre, mais tu m'en as laissé 3. Fa inibtalayta laqad afait, ya Allah, si tu m'as éprouvé, tu as été clément dans l'épreuve. Wa la in akhadhta laqad abqayta. Si tu as repris quelque chose, tu m'en as laissé plus que ce que tu as repris. Réaction de foi. Certes, je perds un membre. Certes, je perds un de mes fils. Mais ya Allah, tu m'as accordé plus. 7 garçons. Tu m'en reprends un, tu m'en as laissé 6. Je te remercie, ya Allah. Pareil pour sa santé, pour son corps. Ça, c'est vraiment réaction de foi de quelqu'un qui a vraiment tout compris. Et ça t'apporte as-sa'ada fi dunya wal akhirah. Ça t'apporte le bonheur, la satisfaction dans ce monde et le summum en termes de récompense dans l'au-delà. Voilà donc concernant l'étude de Al-Latif. Il nous reste 4 minutes pour compléter nos 30 minutes. Permettez-moi juste d'introduire le prochain sifat. On est d'accord ? On va pas commencer, mais juste d'introduire le prochain nom d'Allah Azza wa Jal que nous allons, Inch'Allah, essayer de voir pendant les deux cours qui nous restent durant le mois de décembre. Ouais, parce qu'on rentre en décembre bientôt. Un nom d'Allah Rabbul Izzah qui est nécessaire pour que l'homme, pour que le croyant, ne sombre pas dans un espoir sans fondement, ou un espoir qui risque parfois de friser la rafla, l'insouciance. Attention à cet espoir qui devient élastique, qui devient malléable, qu'on donne n'importe quelle forme, pour couvrir nos manquements et nos péchés. Parce que jusqu'à maintenant, on a vu Rahman, Rahim, Latif. Attention à ce qu'on ait une dhann billah, une pensée concernant notre Seigneur, qui se limite au fait qu'Allah pardonne tout et qu'Allah nous accepte tous et pardonne tout ce qu'on peut faire. Attention, on doit en même temps connaître les noms d'Allah Azza wa Jal qui sont en rapport avec sa sévérité et avec sa puissance. Parce que si on va aller dans ce sens, ben on risque de se perdre dans les waswasa, les insufflations de shaitan. Qui te dira, non, c'est bon, pas besoin de faire fajr demain. Allah est clément, miséricordieux. Ou alors il va te dire, tu te réveilles, tu n'as pas mis de réveil, d'accord ? Ou genre, une personne s'est couchée très tard, il n'a pas pris les précautions pour se réveiller, et il ouvre les yeux, qu'Allah nous pardonne, nous protège, il est 6 heures. En ce moment, 6 heures, c'est cuit. Depuis très longtemps, c'est cuit déjà. Ok ? Et il dit, قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلْ رَضِيتُ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدْرُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ. Il se crampe au Cheikh l'Islam ou pour Mufti Madri. Ouais. Il rate Fajr et il dit Qaddar Allah wa ma sha'a fa'al. C'est là la décision d'Allah et ce qu'Allah a prédestiné, c'est ce qui arrive. Raditu, j'accepte la décision d'Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Louange à Allah dans toutes les situations. Il va se dire que j'ai raté le Fajr, c'est Allah qui a décidé que je rate le Fajr. Donc, khalas, ma indi shay. Ma alayya shay. J'ai rien à me reprocher. Wala tauba, wala shay. Parce que c'est la décision d'Allah. Ça, c'est une compréhension erronée du taqdir. Ou alors que la personne se dise que, ben, khalas, pas besoin de prier, Allah est clément. Même si nos péchés pouvaient atteindre le seuil des cieux, Allah est capable de tout pardonner. Même si nos péchés étaient aussi nombreux que les graines de sable du désert, ou l'écume des mers, ou les gouttes de pluie, Allah, Rabbul Izzah, est capable de tout pardonner. Donc Allah va me pardonner, khalas. J'ai tué personne, je n'ai volé personne, je n'ai pas fait couler le sang, voilà, chérie. Ça, c'est mafhoum khata. Une compréhension erronée qui découle de deux points. Jahl, ignorance, et waswasa de shaitan. Et là, shaitan, il ne se contente pas d'insuffler, là. Là, shaitan jongle avec toi. Pour certaines personnes, il fait, alladhi waswisu fi sudur innas. Il insuffle de la poitrine. Et pour d'autres, khalas, carrément, il, c'est marionnette, il joue, il fait ce qu'il veut avec toi. C'est une image. Hein. Tellement la personne il se laisse aller à son ignorance et à des interprétations et à un mauvais raja, un espoir qui n'est pas fondé. Parce que l'espoir doit toujours être mêlé à la crainte. Al-khawf ou al-raja. Quand ça penche d'un côté, c'est pas bon. Si ça va trop du côté raja, on tombe dans un mouvement qui s'appelle al-irja. Et quand ça penche du côté de Al-Khawf, on tombe dans un autre mouvement qui nous cause beaucoup de problèmes ces derniers temps, qui s'appelle les takfirs ou les khawarij ou toutes ces personnes qui, pour eux, t'as fait ça, khalas, kafir billah. Il n'y a plus de tauba, tu vas aller en enfer. Et ça va être chaud. Et il n'y a plus de fini. Et il n'est plus notre frère. Et Allah ne pardonne pas, na'oudhou billah. Et l'autre extrême, c'est un espoir sans limite et ne jamais trouver juste notre dîn, c'est ummatan wasata, la religion du juste milieu. Et par rapport à ça, nous allons étudier donc un des noms d'Allah Azza wa Jal qui nous fait prendre conscience qui nous adorons. La grandeur d'Allah. Al-Azim. Traduit par le très grand ou le sublime. Peut-être qu'il y a d'autres traductions qui sont mieux, hein, d'accord? Ce que j'ai trouvé, c'est le très grand, le sublime, Al-Azim. Mais il y a d'autres termes. C'est pas encore le sublime. Le sublime, c'est quand on parle de quelqu'un qui est sublime, une grande beauté, d'accord? Mais Al-Azim, c'est celui qui est magnifique. Voilà, qui est, voilà, mais il faut trouver le bon terme, d'accord? Mais ce qu'on doit retenir, c'est qu'à travers l'étude de ce nom, Inch'Allah, nous allons essayer d'intégrer, d'essayer de comprendre et de prendre conscience, premièrement, devant qui nous prosternons. Pour réaliser que ce sujoud, ou cette génuflexion, ce rukou', c'est une grande chance. Qu'Allah nous accorde la possibilité de nous courber, de nous prosterner devant lui qui est aussi grand. Et que même comment les anges tremblent, et qu'on connaît la grandeur des anges, comment ils tremblent devant Allah Azza wa Jal. Comment des anges, depuis le début de la création jusqu'au Qiyama, ils sont en sijda ou en prosternation. Et que nous, qu'est-ce que nous faisons comme ibad? C'est rien du tout. Avec les manquements, avec le manque de concentration, on commence en cela, on va à droite, on commence en cela, lui il est déjà plein des caf, quand il choisit son charol, il faut l'autre est déjà en train de dépoter son conteneur, le port, et ainsi de suite. Nous sommes des êtres humains avec nos manquements, avec nos erreurs, mais malgré tout ça, Allah nous accepte. Et réalisez donc, waouh, quel honneur de se prosterner devant Allah, premier point, et de prendre conscience qui tu oses désobéir aux musulmans. Quand tu prends la mauvaise décision, réalise, réfléchis bien. Réfléchis deux fois. Parce que c'est pas n'importe qui. La personne, celui que tu désobéis, c'est Al-Azim. Essaye de comprendre, essaye de voir quelques versets du Coran, quelques hadiths qui nous donnent une idée de la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Et ce qui est magnifique avec l'introduction du Mu'allif, il dit « Fahuwa Al-Azim ». الذي قد كمل في عظمته وله كل وصف ومعنى يوجب التعظيم فلا يقدر مخلوق أن يثني عليه كما ينبغي له ولا يحصي ثناء عليه. Il est grand, Allah est sublime, et dans sa grandeur a atteint le summum, le paroxysme, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Et autant une personne va faire les louanges d'Allah, tous ses louanges ne couvriront même pas 1% de ce qu'Allah mérite. Autant on essaie d'imaginer la grandeur d'Allah, autant notre imagination sur sa puissance, ça n'atteindrait même pas 1% de la réalité de sa grandeur, de sa puissance. Donc on va essayer de parcourir un petit peu les explications des savants à la lumière du Coran et du Sunna concernant Al-Azama, la grandeur d'Allah Azza wa Jalla. Qu'Allah nous accepte et qu'Allah nous permette d'intégrer le sifat Rahman, Rahim, Latif et qu'Allah fait rentrer là sa grandeur dans notre cœur. Subhana Rabbika. Rabbil Izzati Amma Yasifun. Et demain, Inch'Allah, vous savez qu'il y a un programme de lecture. On a un Qari qui vient. Dua. Faites dua, faisons dua que toute personne qui vient assister à la qira'at demain, chaque personne qui viendra assister, que la réalité des paroles du Coran touche notre cœur. Et que cela ne se limite pas à de la contemplation. Cela ne doit pas être une contemplation auditive uniquement. Pas juste que j'écoute la beauté de la lecture, le timbre de sa voix, son souffle, ses maqamat, ses arrêts, ses reprises, et ainsi de suite. Ça ne doit pas se limiter à ça. Que la réalité des versets pénètre vraiment nos cœurs et qu'on arrive à vraiment produire le tadabbur, la méditation sur le sens des versets, pour les mettre en application, Inch'Allah.